J'imagine que je veux télécharger, je suppose je peux télécharger Ubuntu.
Oui.
Qu'est-ce que je fais sur mon PC Windows?
Déjà, on utilise un vrai navigateur. Alors vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez simplement Ubuntu. Assez rapidement, vous allez arriver sur le site officiel Ubuntu. Ubuntu.org/fr ou un truc dans ce style.
Ubuntu-fr.org.
Voilà, mais je ne connais pas bien Ubuntu, désolé. Là, vous allez trouver un lien de téléchargement qui va vous amener vers le téléchargement d'Ubuntu. Donc, typiquement, vous allez télécharger un CD. On en parlait tout à l'heure, c'est un live CD. Donc, un CD, vous le gravez. Et où vous le mettez sur une clé USB, ça marche aussi. Et vous démarrez l'ordinateur dessus, donc vous démarrez une session live qui vous permet de tester autant que vous voulez, etc., sans forcément installer. Et vous allez voir sur le bureau de cette distribution, une fois démarré, vous avez une icône qui permet d'installer simplement Ubuntu. Et déjà pour le télécharger, ouais, c'est forcément les logiciels libres en général, et puis tous les logiciels d'une manière encore plus générale, il vaut mieux aller les télécharger sur le site officiel. Plutôt que d'aller à droite, à gauche et chercher sur des sites un peu obscurs parfois.
Oui, il faut éviter Clubic par exemple, 01L, des choses comme ça, il faut éviter. Comment
tu disais le site là, Ubuntu
Ubuntu-du6fr.org. Voilà, c'est là également qu'on retrouve le forum, enfin toute la communauté qui peut vous aider aussi en cas de soucis.
Alors juste un petit détail avant de passer la parole à Alena. Ubuntu, c'est un terme de la langue bantou. Mm-hmm. Bantou. Alors le bantou, c'est ce qui est parlé en Afrique du Sud, essentiellement les pays Mozambique et Rwanda. Et ce terme-là, en langage rwandais, entre autres, ça veut dire humanité. Générosité, gratuité. Voilà, le mot Ubuntu a été choisi.
Il a même une signification un petit peu plus
philosophique.
Ça signifie « je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». C'est-à-dire que l'individu se définit par rapport à la collectivité. Voilà, je trouve que c'est une très belle phrase.
Alors, est-ce que ça vient du langage bantou parce que c'est le milliardaire d'Afrique du Sud qui...
Je pense que c'est un mot qui a été très... Enfin, un des premiers à avoir utilisé vraiment ce mot, c'est Desmond Tutu, donc qui est quelqu'un qui a œuvré pour la paix.
Et la lutte contre l'apartheid.
Voilà.
Oui.
Que pensez-vous de la phrase de François Elly qui dit qu'un logiciel libre n'est gratuit qu'une fois qu'il a été payé?
Ouais, je t'attendais toi.
Dehors.
Ouais, dehors, ouais.
Non, mais je vais le capter, il l'a dit, de toute façon, je vais lui poser les pires questions.
Ah, mais c'est sûr, mais ça, j'attendais. Ah, logiciel libre, ouais, en fait, il faut effectivement, il faut le développer. Il y a des gens pour qui développent, donc on le disait, sur leur temps libre, etc. Et quelque part, c'est pas gratuit, quoi. Il faut le payer. Ces gens-là, ils ont besoin de vivre aussi. Et il est donc un logiciel est vraiment complètement libre. Le jour où les développeurs qui ont participé peuvent en vivre, quoi, finalement, et sont payés pour ça. Et avant ça, finalement, on est tributaire de la volonté de tous ceux qui veulent bien y participer, quoi. C'est pas non plus il faut quand même penser à toutes ces personnes qui développent donc du logiciel libre et qui sont pas forcément payées pour ça. Quelque part, toutes les communautés du logiciel libre, à un moment donné, à un moment ou à un autre de leur vie, incitent les gens qui utilisent à donner un petit peu, quoi, parce que voilà, il faut bien participer, quoi, malgré tout.
je connais des développeurs qui quand ils développent, ils n'ont pas l'impression de perdre de l'argent ni du temps parce que au lieu de jouer à des jeux stupides, ils s'amusent
tout à fait,
faire du logiciel.
Bien sûr. Bien sûr,
ça développe les neurones, c'est une sorte de sport cérébral.
Bien sûr, mais derrière un logiciel, alors effectivement, il y a le développeur qui fait ça pour s'amuser, c'est très bien, c'est génial. Mais malgré tout, pour être diffusé, un logiciel a besoin d'être visible sur Internet, il faut payer un hébergeur, il faut payer un site, il faut payer une infrastructure derrière, c'est pas anodin. Donc même si il y a quelques développeurs et c'est très bien qu'ils font ça pour s'amuser ou pour se faire connaître et qui c'est super, mais malgré tout il y a quand même une notion d'argent quelque part, et parce que voilà, rien n'est gratuit en ce moment malheureusement.
C'est-à-dire qu'il me semble me rappeler, en achetant le livre, on participe.
Bien sûr.
Voilà, on participe. Ou on peut faire des dons.
On peut faire des dons, effectivement.
C'est appelé d'ailleurs dans le bouquin.
C'est comme je disais, toutes les communautés du livre, à un moment ou à un autre, font des appels aux dons parce qu'il faut payer une infrastructure. Il faut effectivement, alors pas forcément faire vivre des développeurs, même si c'est souvent le cas. Mais un site internet, il apparaît pas comme ça par magie sur internet. Il y a des machines derrière qui tournent et il faut payer effectivement, ne serait-ce que l'électricité, pour les faire tourner.
On a installé par exemple Ubuntu sur une machine. Mm-hmm. Les mises à jour tous les 6 mois, c'est ça? C'est ce que tu disais?
Non, les mises à jour, c'est tout à fait régulier, c'est au fil de l'eau, et les mises à jour communes, c'est mise à jour de logiciel normal. Après, il y a une version majeure qui sort tous les 6 mois. Donc là, c'est on reprend tous les développements qui ont été faits les 6 derniers mois, on remet tout ça tout neuf dans un nouveau CD et on distribue le nouveau CD.
On recommence la manip, l'installation.
Ouais, quasiment, ouais. On peut le faire par mise à jour, ça marche aussi.
Oui, par mise à jour, voilà. Mais c'est vrai qu'au bout de plusieurs mises à jour, là, tous les 6 mois, c'est bien de réinstaller le système.
Sachant que, attention, parce que ça peut faire peur de dire on va réinstaller le système. Il faut savoir qu'un Linux, quand il est installé, quand c'est bien fait, on a tout ce qui est logiciel d'un côté, tout ce qui est document personnel de l'autre. C'est-à-dire que quand on va réinstaller le système, on ne réinstalle que la partie logicielle, on ne touche pas au document. On ne perd absolument rien.
Alors on garde même les paramétrages de ces logiciels, voilà.
Donc il faut pas avoir Thunderbird,
tout ça.
Voilà, ouais. Donc il faut pas avoir peur quand on dit réinstaller tout, c'est pas grave finalement.
Et on perdra l'écran.
Même pas.
Non,
même pas. On garde le fond d'écran, on garde tout.
Ce qui me dérange le plus avec les logiciels qu'on a tous quelque part, c'est que eux, ils viennent dans mon ordinateur. Mm-hmm. Quand tu prends Google, tu surfes. Encore des jours après, ils savent sur quel site tu étais. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a, par exemple, un moteur de recherche qui ne fait pas ça?
Oui.
J'ai horreur de ça.
Il y en a. Ça s'appelle DuckDuckGo, entre autres. DuckDuckGo. C'est un moteur de recherche qui s'engage à ne pas fliquer tout ce que vous faites sur Internet.
Duck, comme le canard?
Si, oui, comme un canard.
Oui, d'ailleurs, c'est un canard. Le symbole, c'est un canard. Tout à l'heure, on a vu le manchot et le symbole de DuckDuckGo.
C'est vrai que les
DuckDuckGo.
Les mascottes dans le monde du livre, c'est souvent des animaux.
On peut sur Google rechercher aussi les moteurs de recherche libres. On l'écrit sur Google.
On le fait qu'une fois du coup.
Et après donc on les trouve, Google les donne quand même. Et bien entendu, après tu peux choisir uniquement le moteur de recherche. Mais Google en prend plein les dents là quand on lui demande de chercher des moteurs de recherche. Bon.
C'est vrai, ce sont que des machines finalement.
Voilà, exactement.
Et sinon, en tant que moteur de recherche, est-ce que Ecosia ou Six en font partie?
Alors oui, Six, oui.
Et Ecosia?
Et Ecosia, je connais pas.
J'avais vu dans une revue donc un peu alternative, ouais. Et donc j'avais posé un petit peu la question à Stéphane. Et donc Ecosia, quand Firefox dit qu'on peut l'installer, mais je sais pas, je vous l'enverrai peut-être à Nong.
Ouais. On testait récemment Ecosia, c'est simplement une entreprise allemande qui s'engage à reverser une partie des profits liés à l'exploitation commerciale de nos recherches pour acheter des parts dans, dans la forêt vierge et sauver les arbres. Donc au fur et à mesure qu'on fait des recherches, ils nous disent vous avez sauvé un arbre, deux arbres, trois arbres. On ne sait pas réellement est-ce que cet argent est vraiment distribué, est-ce que les arbres sont vraiment plantés. On se dit, dans le meilleur des cas, bon, c'est pas pire que... C'est au moins mieux que Google, qui engrange des sommes colossales, rien que grâce à nos clics, quoi.
C'est ce que j'allais dire. C'est pas
Google ressemble à un logiciel libre, en apparence, puisqu'il est gratuit.
Google, au départ, ils font
énormément de profit grâce à l'analyse de nos recherches.
Mais Google sont basés essentiellement sur des logiciels libres, mais voilà, ils l'utilisent d'une manière qui les arrange.
Et comment sortir de Google?
À ta façon?
Comment sortir de Google? Parce que Google, justement, si le service est gratuit, c'est que vous êtes le produit.
C'est ça.
Voilà, vous êtes vendu, très concrètement. C'est pareil chez Facebook, c'est pareil.
C'est pareil pour tous les services gratuits sur Internet.
Plus, vous êtes vendu. Quand vous avez une boîte mail Gmail, vous êtes vendu. Quand vous tapez une recherche, vous écrivez un mail, vous avez de la publicité sur le côté qui apparaît. Parce que vos mails sont lus.
Bien sûr.
Pareil pour vos contacts, etc. Donc justement, comment sortir de Google?
Et la NSA, hein, tout ça.
Voilà, et c'est ça. Un autre hébergeant.
De toute façon, je pensais, il y a Collab, un logiciel libre qui est en pleine crise justement à la Snowden, a sorti un service qui héberge les mails en Suisse. Et eux l'ont sorti à la rigolade en disant on va essayer de commercialiser notre truc. Et en fait, ils ont été dépassés par les événements.
Complètement.
Complètement dépassés par les événements. Pourquoi? Parce que la NSA, effectivement, a la possibilité aux États-Unis, en invoquant le Patriot Act, de pouvoir lire vos mails, lire votre correspondance et voir ce que vous faites. Et donc effectivement, c'est une idée, c'est de comprendre et d'arriver à comprendre comment on peut sortir.
Voilà.
La solution est d'héberger ses mails à la maison, tout le monde n'en est pas capable. L'autre est de payer son service, parce qu'en fait, on pense que tout est gratuit en ce bas monde, ce n'est pas vrai. Le virtuel, le numérique a un coût. Le logiciel libre, pour moi, n'est pas gratuit. Je suis développeur et je paye tous les mois. Voilà. Donc en plus de fournir du travail gratuit, je paye. Donc... on pouvait aussi imaginer, au sein de l'association, on a imaginé, on est en train
d'essayer de voir ça, ouais, effectivement.
Voilà.
De proposer un hébergement à nos membres, en fait. Un hébergement de mails, de données aussi. De dire, voilà, ben, si vous êtes adhérent à l'association, on vous propose un espace de stockage qu'on maîtrise nous. Et voilà, et de manière pour tous, quoi. Enfin, je sais pas, après, on est vraiment encore en pleine réflexion là-dessus, on n'a pas encore...
Et qui serait illisible par qui que ce soit?
Alors, le côté illisible, en fait, c'est pas très compliqué. On peut héberger des données sur Internet. Il faut savoir que, quelque part, il n'y a pas de sécurité sur Internet, on est d'accord. Il y a des moyens de chiffrer les données, tout simplement. C'est pas très compliqué à faire. Il y a des logiciels qui le proposent de manière très simple. Hein, c'est un clic droit à chiffrer. Ce qui permet avec une clé de chiffrement de se prémunir effectivement, même si les données sont diffusées comme ça, tout va. Tant qu'on n'a pas la clé qui va bien pour décoder les données, ben, on n'en fait rien. Et il y a des moyens très simples, même pour déposer des données sur des services d'hébergement qu'on connaît tous. Voilà.
Et en utilisant le système Tor, est-ce qu'on se protège pas?
On se protège un petit peu, effectivement. Oui, tout à fait, oui. Oui, je dis un petit peu parce que je reviens toujours sur le même principe, il n'y a pas de sécurité sur Internet. Tout, à partir du moment où c'est sur Internet, voilà. Alors, mais Tor, effectivement. Tor, c'est un système décentralisé qui recrée un petit peu Internet, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous.
Comme
faites...
le dieu.
Non, TOR, tout simplement.
TOR, d'accord. Même pas TH.
Non, même pas TH. C'est The Onion Router. Voilà. Donc en fait c'est un internet à l'intérieur d'internet, on va dire, c'est à dire que quand vous faites partie du réseau Tor, votre machine, votre propre ordinateur devient un nœud du réseau, et donc les communications d'un ordinateur à l'autre peuvent passer par votre ordinateur. Mais la particularité du réseau Tor, c'est que chaque machine ne connaît que la machine qui lui est directement proche, que la machine qui lui est directement connectée. Elle ne connaît pas la destination de vos recherches, par exemple. Quand vous faites une recherche, vous faites la recherche qui va sur le PC d'à côté, mais le PC qui est un peu plus loin ne connaît pas la destination, forcément. C'est chaque machine qui distribue l'info à celle d'à côté. Donc, au final, ce qui se passe, c'est que, en faisant comme ça, le PC de destination ne sait pas d'où vient la requête au départ. Donc il n'y a pas moyen de tracer finalement la communication sur le net. C'est à ça qu'on se protège un petit peu.
C'était le principe de communication des résistants pendant la guerre. Ils ne connaissaient que celui à qui ils devaient remettre l'information.
Tout à fait. Et donc Tor fonctionne sur ce principe. Ouais. Et donc ça permet de protéger un petit peu. Non, mais bon, après, il y a toujours moyen de remonter. Hein. En grattant, on arrive à retrouver. Mais il faut gratter. Il faut avoir la volonté de le faire.
Alors, on entend parler beaucoup des nuages, donc des clouds,
oui.
Des clouds, bref. Y a-t-il des différences entre les clouds proposés par Microsoft, Google et autres, et les clouds proposés par Ubuntu, par exemple ?
Ouais, je ne connais pas bien celui d'Ubuntu, je n'utilise pas.
Oui, non, mais...
Ubuntu, vous avez Ubuntu One, donc quand vous installez la distribution sur votre ordinateur, vous avez 5 gigas de stockage en ligne, où vous pouvez mettre photos, musique, que vous pouvez ensuite partager également. Mais bon, je pense que c'est sur des serveurs, il ne doit pas y avoir énormément de différence.
Pour moi, il n'y en a pas, mais bon, après, voilà. Je ne connais pas assez pour notamment celui d'Ubuntu. Mais pour moi, il n'y a aucune différence, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on peut très bien stocker des données sur le cloud, mais pour moi, il faut les chiffrer avant. Quoi.
À quoi ça sert ?
Le cloud ?
Ouais. Et qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ?
Purement commercial, à mon avis.
Ça... Mais au lieu d'avoir les informations sur ton ordinateur, tu les as sur un serveur qui se trouve à l'extérieur.
Et on ne sait pas
où. Et on ne sait pas où il est géographiquement. Mais la seule chose qui est avantageuse, entre guillemets, c'est que, imagine que tu veuilles envoyer 10 mégas de photos, ça fait 3 photos, 4 photos, à quelqu'un. Le courrier te revient en te disant « Ouh, la boîte, elle est surchargée. » Il ne part même pas. Voilà. Donc, le courrier ne part pas parce que tu as essayé de mettre quelque chose de trop important dans la boîte de ton correspondant. Le fait de dire à ton correspondant « Ouh, si tu veux mes photos, je t'en envoie 20, mais il faut que tu ailles les voir sur le serveur en question, le cloud. » Voilà.
Et ça veut dire que n'importe qui peut le faire, alors tout le monde après, y a accès.
C'est plus ou moins payant, mais oui, tout le monde y a accès. Ouais. Après, on peut les protéger par mot de passe.
Voilà.
On peut protéger les données par mot de passe. On peut dire, voilà...
À ton copain, tu lui mets le mot de passe.
Mais on est d'accord qu'un mot de passe, on ne protège rien. Enfin, globalement, on a tous entendu parler de fuites de données, même de très gros services. Orange, encore hier ou avant-hier, je ne sais plus, c'est... connu une faille de sécurité et s'est fait voler je sais pas combien de données d'identité de ses abonnés. Rien de grave d'après eux parce que les mots de passe sont pas touchés. Okay. Ouais. Mais enfin bon, il y a les adresses, les numéros de téléphone, il y a tout ce qu'il faut à côté de ça. Mais c'est pas grave, il n'y a pas les mots de passe.
Sachant aussi que la NSA, de par les volontés du Congrès américain, la NSA est en train de mettre au point des méga-ordinateurs qui vont être capables en un temps X record de trouer tous les mots de passe, tous les codages, tous les... Voilà. Donc c'est la guerre des étoiles, mais... Et alors, le nuage, ça dégouline et il n'y a plus de nuage.
Non, mais ouais.
Voilà.
Bon. Ils veulent faire ça.
Oui, mais c'est une autorisation du Congrès, quand même. Donc,
S'ils veulent, ils auront bien à le faire. Hein.
Non, mathématiquement... Le mot de passe est long et plus dur.
Oui,
ça prend plus de temps.
Je mets les enregistrements. C'est juste une question de temps.
C'est ça.
Oui, pareil. Tout simplement. Il y a...
Il faut toujours en avance sur la technologie.
Je ne sais pas ce que c'était.
Donc, je crois que... il faut réinventer une éthique de dire de faire attention de ce qu'on met dans l'espace public. Mm-hmm. Parce que une fois que c'est dans l'espace public, ça reste.
Ça reste, et c'est public. Il faut avoir conscience de ça.
Je suis au sein d'attaque d'Allemagne dans le comité. Comment s'appelle-t-il, CA, pendant 7 ans. ces traces-là, vous les trouvez encore sur Internet. Je ne fais plus rien, mais c'est encore là.
Bien sûr. Et ça restera.
Et ça restera.
Bien sûr. Il faut savoir que, enfin, il faut avoir conscience que tout ce qu'on met sur Internet, même sur Facebook ou avec des mots de passe dans le cloud, globalement, c'est public. Non, mais voilà. À un moment ou à un autre, il y aura forcément. C'est accessible, et à partir du moment où c'est accessible, même avec un mot de passe, pour moi, c'est public.
Pas ouvert à tous les publics.
Oui et non.
Il disait qu'au niveau du recrutement maintenant, dans
faille.
Les entreprises, ils vont chercher sur Internet profil des gens.
Non, et puis il suffit d'une faille. On a tous vu des services en ligne se faire pirater leurs données de manière massive. Donc les gens les ont mis de bonne foi, ils ont mis des bons de passe, ils ont mis tout ce que vous voulez. Mais ça s'est retrouvé de manière publique sur le net. Donc voilà. Il faut avoir conscience de ça. Après, il faut agir en conséquence. Vous mettez ce que vous voulez sur Internet, il n'y a pas de souci, mais il faut savoir ce qu'on y met.
On peut aller plus loin en disant que tout ce qu'il y a sur l'ordinateur est aussi visible par la NSA et compagnie.
Ouais, mais l'ordinateur, oui, bien sûr, c'est visible par la NSA, etc. Mais à un moment donné, l'ordinateur, on a encore le câble à la main, on peut encore le débrancher. Une fois que c'est sur le cloud, une fois que c'est sur un serveur, on ne sait où sur le réseau, moi, j'ai plus le câble à la main, je ne sais plus débrancher.
Mais on se balade tout le temps avec un portable
allumé.
Bien sûr. On est tout le temps repérable.
Oui.
Si quelqu'un voudrait savoir quand vous bougez, comment, ils peuvent le savoir. Et ça, c'est pas de la musique pour en 30 ans. Ça, ils peuvent le faire aujourd'hui. Quand il y avait les séismes, le tsunami, on a localisé des gens sur des rochers à cause de leur portable.
Là, c'était
bien, mais on peut le faire aujourd'hui. C'est pas un problème.
Moi, c'est pire. On va avoir un
Oui, vas-y.
Par satellite. Parce que je fais de l'apnée du sommeil, j'ai un buffet d'eau et je suis surveillé par satellite par la sécurité sociale.
Ah oui, comme quoi tu l'utilises bien. Oui, j'ai entendu dire ça. Parce que si tu l'utilises pas, on ne te le rembourse plus. Voilà.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Au risque de dire une sottise, là, DuckDuckGo. Le moteur de recherche, ça fonctionne avec Ubuntu ou Linux?
Ça fonctionne avec n'importe quel navigateur.
D'accord.
Donc avec Windows.
Même avec Windows.
D'accord. D'accord, non, mais j'étais pas sûr.
Donc, tu remplaces Google, tu le remplaces par DuckDuckGo. Voilà. Oui.
Merci.
Non, moi, je voudrais dire des choses plus simples. J'ai un ordinateur qui fonctionne avec Windows 7. J'utilise Word, Excel, enfin pas Excel, plutôt Works, puis différents logiciels. Mm-hmm. Alors si je veux passer à un logiciel libre, comment je fais? J'ai compris que ça coûtait moins cher en principe. J'ai compris aussi que c'était moins sensible aux virus et autres espions que prenaient sur le net. Mm-hmm. Et comment je fais pour acheter un ordinateur moins cher chez quel commerçant, disons, et comment je fais après pour charger le logiciel libre à la place de Windows?
Une question, t'as des adresses?
Oh ben, moi, il y a un site internet où vous pouvez justement acheter un ordinateur où il n'y a aucun OS. Hein.
Portable,
d'accord. Un portable, oui. Non, il faut même des...
Oui, non, mais je veux dire, pour une autre, c'est plus simple.
Tout à fait,
oui. Oui, ouais, effectivement. Mais ordinateur portable, voilà, sans système d'exploitation. Donc attention, hein, quand vous allez l'allumer, si vous ne mettez pas le système d'exploitation avec le live CD et tout, il ne se passe rien. Hein. Voilà, c'est boîte noire.
Je vais voir qui, vous, par exemple, pour...
Oui,
ah oui, tout à fait. Ça marche très bien, on va aller la voir.
Il faut bien demander combien elle prend.
On va écouter... Moins cher que l'ordinateur.
C'est ça.
On va voir.
Ça, je peux vous le dire, la cyberbase, donc on a des tarifs qui, je pense, sont accessibles à tous, parce que donc ça fonctionne sur adhésion, parce que nous faisons partie d'une association. Si vous habitez, par exemple, la communauté de communes, hein, Conques-Marcillac, en individuel, vous avez une adhésion qui est de 15 euros par an, renouvelable donc à chaque date anniversaire de votre inscription. Et avec la première adhésion, vous avez déjà 10 heures gratuites à la cyberbase. À savoir qu'il y a deux types de fonctionnement. Donc il y a ce qu'on appelle le libre accès, où là vous allez pouvoir venir travailler, mais c'est plus en autonomie, sur les postes ou avec votre ordinateur. Hein. Donc vous travaillez en autonomie, mais en sachant que vous avez toujours quelqu'un, moi ou ma collègue qui est là-bas, Aurélie, qui, enfin, nous sommes là pour vous aider en cas de problème. Voilà. Nous avons également donc le deuxième fonctionnement, ce sont des ateliers où là on va vous initier à certains logiciels, des sites internet, et puis on a notamment la session premier clic. Donc là c'est vraiment pour les grands débutants de l'ordinateur qui n'ont pratiquement jamais touché, puisqu'on commence avec souris, clavier. Voilà, donc à savoir que le libre accès, une fois que vous avez épuisé les 10 heures gratuites avec l'adhésion, c'est 1 euro de l'heure. Et les ateliers, 1,50 euro.
Escroc.
Voilà.
Ah. Bon, et
des élections, si vous voulez faire changer les tarifs,
oui.
Sur l'occasion d'exprimer vos...
Pour les régionales, c'est que l'an prochain.
La communauté de communes. Bah, si vous n'en faites pas partie, l'adhésion est de 20 euros et vous avez toujours les 10 heures gratuites avec l'adhésion. Voilà. En gros, hein. Mais on est toujours dans ces tarifs-là.
Et après, en dehors de ça, il y a aussi les gens qui sont proches de Rodez. Par exemple, les gens qui habitent sur le plateau là-haut, au-delà de Salle La Source, et qui travaillent sur Rodez, il y a là aussi la possibilité
de venir nous voir,
de voir nous, la rue.
La rue de Hel, effectivement, on a des permanences. Alors, les permanences techniques, on va dire, ce sont les deuxièmes et quatrièmes jeudis de chaque mois, tous les mois. C'est à la maison des associations à Rodez, c'est l'ancienne école du Sacré-Cœur, l'ancien collège du Sacré-Cœur derrière l'église du Sacré-Cœur. Et à partir de 20h30, donc deux jeudis par mois, vous pouvez venir et poser vos questions, effectivement, venir voir à quoi ressemble un Linux, même pour ceux qui n'ont jamais vu, essayer si ça vous tente. Et puis on peut vous accompagner effectivement pour installer Linux ou des logiciels libres sur votre ordinateur. Alors nous aussi, on fonctionne sur un principe d'adhésion, effectivement. L'adhésion, c'est 21 euros par an, chez nous. Et là, vous avez accès, vous venez quand vous voulez, il n'y a aucun problème, vous participez autant que vous le souhaitez à tout ce qu'on propose. Alors on ne propose pas forcément d'ateliers formels, un peu comme la cyberbase. Nous, on est plus là pour répondre aux questions des adhérents, pour être présent, pour apporter un support au quotidien, si jamais il y a besoin, s'il y a des questions, s'il y a vraiment des difficultés. Ça nous est même arrivé de... Alors, on ne le fait pas tout le temps non plus, mais ça nous est arrivé de nous déplacer même chez les adhérents quand vraiment ça le nécessite. Il n'y a vraiment pas de souci, on est présent. Quoi.
Tu répètes les jours, là
c'est deuxième et quatrième jeudi de chaque mois. Le premier jeudi de chaque mois, on est effectivement présent à la maison des associations, mais c'est une réunion, pour nous, c'est une réunion de travail, en fait, où on essaye de prévoir nos événements, quoi, enfin nos sorties.
Et il y a un corollaire, je dirais aussi, cyberbase sur Rosnay-le-Château. Donc ceux qui sont sur la communauté des communes de Rodez peuvent aussi aller à la cyberbase.
Il y a la cyberbase de Rodez aussi qui propose des ateliers.
Il y a la MJC aussi. Voilà. La MJC. Donc il y a tout un tas de systèmes associatifs qui permettent d'accéder à cette nouvelle façon de concevoir l'Internet. Quoi.
Voilà. L'Internet et l'informatique au sens large.
Et l'informatique au sens large.
À savoir qu'à la cyberbase, les 12 et 26 février, si je me souviens bien des dates, il y a une série là, de deux ateliers pour découvrir Ubuntu, justement. Parce qu'à savoir que les postes qu'on a, ils sont installés en double avec Windows et Ubuntu, donc si vous vous inscrivez à ce genre d'atelier, vous avez la possibilité de manipuler, de tester, de faire des misères à Ubuntu, le pousser
oui,
à
Ubuntu. Oui, ça, il n'y a aucun problème.
Et le 5 avril.
En général, il ne plante pas, c'est très
rare. Ah, le 5 avril, oui, aussi, mais c'est un peu plus loin, effectivement.
C'est
mais
du projet, ça.
C'est du projet, mais pourquoi pas en parler, effectivement. On prévoit, en partenariat donc, avec la rue de Hel et la cyberbase de Marciac, une journée complète sur les logiciels libres, sur tout ce dont on vient de parler, sur tout l'univers du libre, la cartographie, la musique, pourquoi pas. Tiens, on pourra en diffuser d'ailleurs. enfin voilà, toute une journée autour du libre, donc pour ceux qui voudraient en remettre une couche.
Dans le cadre de Libre en Fête.
Voilà. Libre en Fête, c'est une manifestation nationale organisée par une association de promotion des logiciels libres, un peu comme la nôtre. Mais voilà, au niveau national, qui tous les ans organise une série d'événements, enfin, ouais, qui agrège une série d'événements un peu partout en France, voilà, autour du libre. C'est pas libre en fait, c'est au printemps. Et voilà, on s'associe tous les ans, nous l'association Quergat, on s'associe tous les ans à cet événement en proposant quelque chose à Rodez, autour de Rodez, parfois deux, trois événements. Voilà.
5 avril, ce serait où alors, à Rodez ?
Non.
À la cyberbase. À la capitale, quoi.
Mais ouais. C'est, comme elle dit, c'est un projet, il faudrait encore qu'on en rediscute, mais voilà, c'est...
Ça a de très grandes probabilités d'exister.
Ah ben j'espère, mais...
Vous vouliez donner un site, je crois, tout à l'heure, pour acheter justement un ordinateur.
Ah oui, pour trouver donc un ordinateur sans système d'exploitation, il y a, bon, y a un site, moi, que je trouve très bien, c'est ldlc.com, voilà, où vous trouvez... Ils ont notamment leur marque d'ordinateur à eux qui s'appelle Aurore et que j'ai pu tester vu que j'ai conseillé une amie là-dessus. D'accord. Et franchement, avec un Ubuntu dessus, ça marche très bien. En plus, le SAV est pas mal parce qu'elle a eu un problème avec son ordinateur. Et ça, voilà. Donc ça se fait naturellement par colis, hein, par envoi, mais c'est relativement rapide et efficace. Voilà.
Alors il y a aussi un autre problème dont on n'a pas parlé, c'est quand vous voulez par exemple trafiquer des photos, très bien, logiciel impeccable. Le problème c'est que les photos c'est pas toujours pour rester sur l'écran de l'ordinateur, c'est quelquefois pour passer sur papier. Donc c'est lié à une imprimante. La nuit majeure c'est que toutes les imprimantes sont vendues avec des logiciels sous Windows. Il n'y a pas de problème, vous ne pourrez jamais installer une imprimante avec les logiciels vendus avec, Canon, n'importe, Hewlett-Packard, ainsi de suite, si vous n'avez que, effectivement, Ubuntu sur votre ordinateur. Mais la communauté des Ubuntuistes a répondu à ça en disant il s'agit de commander une imprimante, donc on va faire des logiciels pour commander votre imprimante. Et alors là, rien de plus simple, vous branchez votre imprimante sur l'ordinateur. Il s'affiche.
C'est rien, pas d'intimité, ouais, c'est sympa.
Il s'affiche, c'est un petit bug, oui. Il s'affiche sur l'écran. Vous avez une imprimante Canon, truc qui vient de... voulez-vous le logiciel pilote ? On peut vous le chercher. Alors vous dites oui, bien sûr. Et ben, il passe un certain temps, tic-tic-tic-tic, il vous repose une question, tac-tac, ça y est. Bon, ben voilà, vous avez votre imprimante qui est installée.
Tu parles de Ubuntu, là, c'est ça ?
Oui.
Ça marche comme ça sur toutes les distributions, quasiment. Il y a énormément de distributions.
À savoir que le seul petit souci qu'il pourrait y avoir, c'est si vous avez un modèle vraiment d'imprimante très récent. Il faut le temps, justement, que la communauté développe le pilote.
Comme on le disait, effectivement, les pilotes ne sont pas fournis pour Linux. Les fabricants d'imprimantes, ils s'en foutent royalement, de toute façon. Donc, ils ne fournissent pas de pilotes pour Linux. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est la communauté des développeurs qui récupère donc une imprimante, essaye de comprendre comment elle fonctionne, développe un logiciel et le fournit. Donc, toute cette étape de recherche, de savoir comment ça fonctionne, etc., et de développement du logiciel, ça prend du temps. Et donc, effectivement, une imprimante un peu trop récente, ou du matériel un peu trop récent en règle générale, c'est parfois un peu difficile. Il vaut mieux acheter un matériel qui a 6 mois, ou un an, qui marche très bien, il n'y a aucun problème, qui est relativement récent malgré tout, et qui fonctionnera sans aucun problème, plutôt que d'acheter un truc beaucoup trop récent et pour lequel il faudra attendre. Je crois que Michel est parti là, mais on avait un adhérent là qui a passé, je crois, plus de 6 mois sans son sur son ordinateur parce que la carte son était trop récente.
Jusqu'au jour où...
Ah ben oui, mais bon... il faut le savoir, quoi. Voilà, c'est pas...
Oui, moi, je ferai une question qui n'est pas tellement d'ordre pratique, même deux. Mm-hmm. C'est toutes les données qui sont mises sur Internet, les photos, il y a un support physique quand même.
Il y a un support.
Il y a une augmentation énorme de
volume de données, oui.
Donc, je pense que les supports physiques se développent aussi à marge, quoi.
Oui, bien sûr.
Et on sait que, bon, ça consomme de l'énergie.
Énormément.
Mon corollaire à la question, c'est est-ce qu'en utilisant autre chose que Google, c'est à chaque fois la même quantité d'énergie qui est nécessaire, ou moins, selon qu'il y a plus de publicité ou pas? Est-ce que ça varie? Est-ce que vous savez un peu où on arrive dans tout ça?
Une des petites astuces, si on veut justement peut-être réduire un tout petit peu à notre niveau cette dépense d'énergie, c'est qu'au lieu d'aller chercher un site dont on connaît l'adresse et qu'on peut taper dans la barre d'adresse du navigateur, au lieu d'aller chercher sur Google, c'est mieux de le taper dans la barre d'adresse. Parce qu'on met moins justement de ces supports de stockage, on en met moins en route, on passe par moins de points comme ça de recherche. On accède directement au stockage du site.
Tu veux dire qu'il faut taper HTTP et tout ça tout entier là avec
non, le HTTP est de moins en moins vrai. Hein, ouais, on tape
et
directement.
Le www aussi. Ouais.
Et le www aussi, c'est pareil.
Tu mets le nom.
D'accord. Voilà.
Ouais. C'est de moins en moins vrai, effectivement.
Par exemple, tout à l'heure, on parlait de Tor. Tu dois pouvoir écrire Tor et tu as effectivement le résultat qui t'arrive.
Oui, de grandes chances. Enfin, ouais, Tor, oui, il y a de grandes chances. Je ne connais pas l'adresse du site, mais ouais.
Donc, quand je dis ça, c'est...
Non, mais voilà, mais c'est vrai que ça marche comme ça.
Suite à ta... Vas-y, deuxième.
Oui, non, le deuxième, c'était ça pour savoir si vous pouvez économiser un petit peu d'énergie.
Un petit peu, mais après
sinon, c'est... au début... Par rapport à ma première question.
Oui, non, mais c'est n'importe quel moteur de recherche va mettre en branle, j'ai envie de dire, les mêmes mécanismes. Donc, quelque part, ça sera à peu près la même consommation. Il n'y a pas de vraie solution par rapport à ça.
Si ça ne va pas chercher les pubs à chaque fois, ça peut peut-être économiser.
Ça économise un petit peu, effectivement. Ouais. Alors, pour ça, il y a Firefox, de très bons plugins qui permet de bloquer toutes les publicités. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, ça se ressent au niveau de la vitesse de navigation aussi.
Oui.
Parce que quand on ne charge pas tous les trucs annexes dont on n'a rien à faire, ça aide bien. Donc il y a Adblock, notamment, qui est connu, qui bloque beaucoup de publicité. Il y a Ghostery, je ne sais pas le prononcer, c'est pas grave, qui bloque aussi pas mal tous les trackers. Alors ce qu'on appelle les trackers, c'est tout ce qui vous traque justement sur Internet. Ça bloque bien aussi. Ce sont deux extensions qui permettent de déjà économiser pas mal.
Oui. Ouais. Et il y a, enfin, pour aller un peu plus loin dans ce que tu as abordé comme sujet, j'ai lu il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si c'est sur Politis ou sur Courrier International, quelque chose comme ça, qu'en France, à l'heure actuelle, les sites hébergeurs, avec les clouds dont on parlait tout à l'heure, les sites de recherche, les moteurs de recherche, avaient besoin d'ordinateurs, bien sûr, de plus en plus, de serveurs de plus en plus importants, sites, non, et que ça, à l'heure actuelle, leur consommation permanente représentait 3 tranches nucléaires. Voilà. 3 tranches nucléaires. Bon, il y en a 57 ou 58 en France à l'heure actuelle, de tranches nucléaires. Mais il y en a 3 qui sont utilisées uniquement pour stockage et recherche.
Mais juste pour la France, c'est-à-dire ?
Oui, pour la France. Oui, pour la France. Donc, on voit que c'est pas tout à fait gratuit. Il nous faudrait quelques éoliennes de plus ou quelques panneaux photovoltaïques, encore que. Donc, pour arriver à faire que ça soit plus propre, on va dire. Mmh. Voilà.
Oui, on en parlait tout à l'heure. Effectivement, c'est pas forcément très propre. Hein,
oui, les appareils disons... aussi. Hein,
oui, voilà, les appareils.
Minerai, c'est même pas très propre du point de vue social. Puisque...
L'avantage de Linux par rapport à ça, c'est qu'il permet de prolonger un petit peu la vie des machines.
Voilà.
Donc au lieu de jeter votre ordinateur parce que Windows a décidé qu'il était obsolète et qu'il pouvait plus faire tourner en Windows, installez un Linux et vous verrez qu'il marche très bien.
Ah oui, mais ça, je veux dire, une fonction logicielle, c'est pas mécanique.
Mais ça permet de prolonger un petit peu la vie de l'ordinateur. Plutôt que de le mettre à la poubelle, on peut continuer à l'utiliser.
beaucoup de personnes.
Parce que le logiciel. Pardon, excuse-moi.
Non, non, mais non, bien sûr, mais parce que on n'est pas. Parce que. Si
vous...
Parce que
pas obsolète.
Parce que voilà, il n'est pas obsolète. Le matériel fonctionne très bien, il n'est pas obsolète.
Ça arrive très souvent, on voit l'ordinateur Windows qui vient de plus en plus lent au démarrage, à la fermeture, pour lancer les applications. Ça rame, quoi. Ça prend de plus en plus de temps. Et on se dit, oh, bah, c'est l'ordinateur.
On le jette.
On le jette et on change. Voilà, donc. C'est dommage parce que voilà, l'ordinateur est encore bon. Il suffit de changer de...
J'ai entendu donc qu'il y avait moins de chances d'être embêté avec les virus. Et donc, il y a quand même des antivirus avec Ubuntu. Oui. Il n'y a besoin de rien.
Ça fait plus de 10 ans que j'ai pas un antivirus.
D'accord.
Je ne sais pas ce que c'est un antivirus.
Donc ça veut dire que la rapidité de la machine, ça s'en ressent.
Ça en ressent aussi, bien sûr, puisqu'on ne fait pas tourner un logiciel uniquement pour éventuellement scanner pour savoir s'il y a un virus.
Une question à propos des virus. À qui profitent les virus, sinon aux gens qui fabriquent des antivirus et qui les vendent?
Je ne sais pas. Très sincèrement,
est-ce qu'on ne peut pas soupçonner les gens qui vendent des antivirus d'être eux-mêmes à la base
de... On peut les soupçonner, effectivement, mais après, il peut y avoir des enjeux politiques, il peut y avoir des enjeux pour se faire connaître, il y a beaucoup de raisons. Quoi, pour...
Simplement, l'étudiant en informatique a envie de s'amuser aussi.
Aussi. Voilà, juste ouais. Pour dire, voilà, j'ai réussi à craquer ma chaîne, et puis c'est une fierté personnelle, quoi, mais...
Petit con.
C'est ça. Non, mais il y en a.
En plus, un système libre comme ça, où on a accès au code source,
y a moins d'enjeux.
C'est pas intéressant de.
Il n'y a pas d'enjeux finalement.
On a le code, donc voilà, il n'y a pas d'amusement.
Ouais, non, mais c'est vrai que c'est moins rigolo.
Lancer de la pub.
Ouais, je sais même pas. C'est particulier, le monde du libre est très particulier, la communauté, malgré qu'elle soit très, très vaste et très répandue à travers le monde. Elle est quand même plus ou moins, c'est un village hein, finalement. Il y a quand même des gens qui sont connus, enfin voilà. Et je pense que quelqu'un qui se ferait remarquer comme ça en essayant d'infiltrer le système serait assez vite repéré et banni. Voilà.
Est-ce que le logiciel c'est partout dans le monde ?
Bien sûr.
Oui.
Ah oui, ce sont des logiciels qui sont développés, les logiciels libres, donc notamment, même, je parle de ce que je connais, ce sont des logiciels qui sont développés par des gens à travers le monde, vraiment. C'est-à-dire qu'on a des gens qui travaillent ensemble, mais qui sont au Canada, en France, en Russie, enfin, etc., etc., et qui sont autour d'un projet commun et qui travaillent vraiment ensemble, main dans la main.
En Chine ?
Et en Chine aussi, très certainement, oui. Oui, en Chine aussi. Ouais. Il y en a. Alors en Chine, c'est plus compliqué, on est d'accord. Mais...
Encore une question. Ubuntu, par exemple, et un Mac.
En théorie, ça marche. J'ai jamais essayé, mais normalement, ça marche.
C'est-à-dire qu'on peut installer Ubuntu sur un Mac.
Normalement, oui. Mais encore un coup, je ne l'ai jamais essayé et je ne sais pas... On trouve des ressources sur Internet pour ça. Je veux dire, il y a des gens qui l'ont fait, qui ont détaillé la marche à suivre pour arriver à installer.
Moi, je ne l'ai pas installé, mais je l'ai vu tourner sur un vieux Mac, là, assez ancien. Donc,
c'est d'autant plus facile que maintenant, les Macs sont sur architecture Intel, donc c'est finalement des PC comme les autres. Quelque part, oui. C'est moins chat à dire, mais c'est
oui,
pas...
Oui, parce qu'avant, Apple développait son propre processeur, donc pour PC, là. Et ça lui était vraiment spécifique.
Ouais.
Donc maintenant, il y a quelques temps, ils sont passés, bah, comme n'importe quel ordinateur à du système Job, Intel. Voilà.
C'était avant.
C'était avant.
D'accord. Et Skype, comment ça s'articule ?
Skype, c'est Microsoft.
C'est Microsoft.
Ça a été racheté par...
On a le produit identique.
Il existe sous Linux.
Il y a une version, oui.
Mais bon, après, il faut savoir que c'est Microsoft. Donc tout ce que vous dites sur Skype, potentiellement, est écouté et stocké chez Microsoft. Vous voyez aucun problème, hein. Après, vous faites comme vous voulez. C'est super pratique, tout ce qu'on veut, mais voilà, il y a un revers.
Est-ce que ça fonctionne dans chaque mail qu'on envoie de mettre des mots-clés pour faire tourner les logiciels espions pour les embêter quoi.
Donc
mettre systématiquement bombe, terroriste, islam.
Il y a des chances, mais après.
Je peux citer une expérience, tu me diras si c'est la preuve que c'est lu en permanence. T'écris dans Gmail un mail où tu dis à quelqu'un, tu trouveras si joint en pièce jointe tel truc, et tu envoies le message sans mettre de pièce jointe. Et immédiatement, tu as un panneau qui te demande si tu veux bien l'envoyer comme ça, parce que tu as y a le mot pièce jointe dans le texte, et
oui,
tu l'as.
Oui, mais ça, c'est une lecture au moment de l'envoi, c'est pas forcément
oui, mais enfin,
stocké, c'est pas forcément... Et c'est le logiciel qui fait ça. On a, par exemple, Thunderbird, qui est un logiciel libre.
Si je le fais dans d'autres, ça ne le fait pas.
Oui. Qui fait exactement la même chose. C'est pas...
soit le sujet, soit la pièce.
Tout à fait, oui. C'est une aide, mais c'est le logiciel qui fait ça, c'est pas forcément.
Là, je suis pas sur un logiciel de mail, je suis directement sur Gmail.
Oui, mais c'est un logiciel.
Qui a été installé à mon insu, alors
La différence, c'est qu'en fait, il tourne dans un navigateur Internet. Donc, il est effectivement, c'est Google qui le fait, le fait fonctionner sur ses machines. Et qui transmet l'information, mais c'est un logiciel, voilà, c'est malgré tout, il y a une partie qui tourne chez Google, et une partie qui tourne localement sur la machine. Et c'est cette partie-là qui est locale sur la machine, quand on charge la page, il charge en même temps tout ce qu'il faut pour écrire, etc. Et c'est cette partie-là qui prévient que, attention, on a mis pièce jointe et qu'on a oublié de l'envoyer. Mais ça, c'est pas tout à fait pareil.
D'accord.
C'est pas le même principe que ce que disait monsieur, de dire si on met des mots-clés un peu connotés terroristes, voilà, on va de suite être écouté par la NSA et se faire repérer. Mais je ne serais pas étonné. Je ne serais pas étonné.
Mais à la limite, si dans ce cas présent.
Quel intérêt, ouais.
Déjà. Bah non, mais je veux dire,
l'idée c'était de s'assurer si tout le monde le faisait.
À la limite, tout dépend de l'éthique qu'on met derrière l'écoute et la surveillance.
Disons que ça part toujours d'un bon sentiment, hein. Mais il faut savoir jusqu'où on va, quoi.
Disons qu'après, si ce genre de choses, effectivement, une recherche basée sur certains mots et non pas sur la lecture complète du contenu d'un message, peut amener à éviter un attentat ou quelque chose qui...
Je sais pas.
Mais grave.
Ouais, mais jusqu'où on accepte ce genre d'intrusion dans notre vie privée, c'est ça le problème. Ça. Parce que le sentiment au départ, c'est un bon sentiment. On dit on va éviter le terrorisme, on va éviter les catastrophes, machin. Mais voilà, jusqu'où on est prêt à aller.
Après, on ne peut pas surveiller ceux qui surveillent. Voilà, c'est le problème.
C'est un peu le problème aussi. Ouais. Donc, quel est le bon compromis par rapport à ça?
Après, c'est une question de philosophie. C'est sûr qu'un animal domestique, il est moins exposé au danger qu'un animal qui vit dans la vie sauvage. Mm-hmm. Mais bon, après, il faut qu'il accepte.
Voilà, c'est ça. C'est
ça.
C'est ça.
L'image est bonne.
C'est exactement ça.
Alors, l'image du libre est super. À quel domaine on pourrait le développer? En plus de l'informatique, le livre, la musique, l'encyclopédie, les graines peut-être.
Oui, ça c'est effectivement.
Et quel autre domaine?
Pourquoi pas les graines, les médicaments
la
aussi.
Connaissance,
la connaissance.
La pensée.
Et la pensée, mais la pensée, bon. On va essayer de la garder libre pour le moment, mais. Ouais, je sais, de moins en moins. Mais oui, tous les domaines, ça peut toucher effectivement tous les domaines auxquels on peut penser, qu'on peut imaginer. On parlait de nourriture aussi. Enfin voilà, vraiment, on commence à avoir du matériel, on commence à avoir des voitures libres, on a des imprimantes libres, on trouve énormément de ressources, donc tout ce qui est culture, le partage du savoir, enfin vraiment. Pour moi, il n'y a pas de limite. Quoi.
Tout est inventé.
Enfin, tout reste à inventer, effectivement. Il n'y a plus qu'à. Écoutez, c'est un projet comme on parlait tout à l'heure, comme Wikipédia, qui maintenant fait l'unanimité à peu près partout. C'est parti de quoi? D'une idée, d'une personne qui a dit à un moment donné, tiens, je vais faire ça. Il n'y a plus qu'à.
Vous avez aussi, si vous avez... Vous allez sur Internet et puis vous pouvez faire la recherche des films, des animations en libre. Il y a un projet qui s'appelle Blender. Donc Blender, c'est un logiciel qui permet de créer des images de synthèse en 3D. Et vous avez des gens, grâce à ce logiciel, qui ont fait des
courts-métrages.
Des petits courts-métrages d'animation qui sont très sympas. Il y a Big Bug Bunny, par exemple, Sintel. Et vous pouvez très bien les télécharger.
Donc on a effectivement aussi je sais pas si on peut appeler ça du cinéma, mais en tout cas des courts-métrages effectivement qui sont sous licence libre. Donc il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire sous licence libre. Ça veut dire que autant les graphismes que la bande son que tous les personnages qui ont été utilisés pour créer le film sont disponibles librement, on peut les réutiliser, notamment tu parlais de Big Bug Bunny. Il faut savoir que donc c'est un petit court métrage d'animation, ça dure 10 minutes, ça parle d'un gros lapin, voilà. Et donc il y a des gens qui ont récupéré tout le graphisme du court métrage et qui en ont fait un jeu vidéo. Ils ont récupéré le graphisme du lapin, ils ont récupéré les arbres, l'herbe, tout ça, machin, ils ont fait un jeu de plateforme, ils ont fait un jeu vidéo à partir d'un truc qui était disponible librement, tout simplement. Donc on peut réutiliser la culture libre, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on part de quelque chose d'existant et puis on l'adapte, on le réutilise, on en fait autre chose et puis finalement voilà, ça évolue comme ça.
Et en parlant de films libres aussi, il y a un film, si vous voulez approfondir un petit peu cette notion de libre, vous pouvez pareil le rechercher sur un moteur de recherche en tapant, le titre du film, c'est « Copier n'est pas volé ».
Ah oui.
Voilà, c'est un excellent documentaire, on va dire, et vraiment les personnes qui parlent là amènent des idées vraiment très intéressantes par rapport justement à cette idée du livre.
Bien sûr, en fait, on est sur le principe de dire, voilà, on a des données numériques, qui potentiellement ne pèsent rien et ne coûtent rien, entre guillemets, à part la première fois pour les produire, et qu'on peut copier à l'infini. Et donc le film revient sur cette idée de dire, si je copie une donnée, elle est toujours disponible pour les autres, quoi. Je ne la vole pas au sens propre du terme.
C'est copié, pas coupé.
C'est copié.
Si, voilà, dans le film, l'idée qui est mise, c'est que si vous avez un fichier sur votre ordinateur et que vous le copiez 1 million de fois sur votre ordinateur, vous aurez 1 million de fichiers plus 1, l'original. Donc il n'est pas disparu, il n'a pas été volé. Mmh. C'est ça l'idée.
Il y a peu de temps, il m'a été indiqué, c'est les films qui me font penser à ça, un site qui s'appelle Pouctifa. Et on peut y voir, alors on ne télécharge pas, on les voit, ça se charge au fur et à mesure, et on y voit des films, mais j'en ai vu là, enfin j'ai pas visionné, mais j'en ai vu de 2014, qui datait de 2014. Et alors là, je ne comprends pas si la légalité, là c'est pas un téléchargement, puisqu'on... on ne peut pas le transférer.
Oui, mais c'est pas légal quand même. Aux yeux de la loi, c'est pas légal.
D'accord.
On n'a pas le droit.
Que ce soit bien ou pas, c'est chacun le voit. Hein.
Non, mais c'est.
Après, la notion de bien ou de pas bien, sauf que c'est à portée, n'importe qui peut le faire. Donc,
évidemment.
Non, je me questionnais un petit peu sur la légalité, justement, de ce.
Après, voilà, c'est aux yeux de la loi, c'est illégal. Parce qu'on n'a pas payé.
C'est streaming, c'est ça
voilà, le streaming. Oui. Vous ne payez pas le droit de regarder le film.
Parce que oui, voilà, le problème qu'il y a, c'est qu'à chaque fois qu'on achète un DVD ou ce genre de choses, on ne paye finalement que le droit de le regarder et pas plus, quoi. Il ne nous appartient pas vraiment. Et tout le problème est là, finalement. On croit acheter quelque chose, en tout cas, on croit acheter un savoir, enfin, une connaissance, quelque chose.
Un contenu.
Et finalement, tout ce qu'on achète, c'est le support. C'est le bout de disque, c'est le bout de plastique, voilà, et puis c'est tout, quoi. Parce que le contenu lui-même ne nous appartient pas. Et donc, en streaming, on ne paye pas, donc, puisque c'est accessible.
C'est ça.
Et à partir du moment où on ne paye pas ce droit à visionner, normalement, c'est illégal.
D'accord.
Malgré le fait que la personne qui a placé la copie du film sur ce site-là, ben, elle n'a pas, pas coupé, comme on disait tout à l'heure, copie d'origine. Quoi. Je veux dire, la copie d'origine existe toujours. Ce n'est qu'une copie. D'accord.
Mais, ouais. Parce que là, est-ce qu'on parle de téléchargement ? Ce n'est pas un téléchargement.
Non, c'est du streaming.
Ah oui, c'est un nom approprié. Mmh.
2014, oui, le CD n'est pas sorti, donc ça a été filmé en salle.
Oui, aussi, mais
c'est
bon.
Piratage total.
Peut-être, alors. Je sais pas, mais j'en sais rien. Hein. Enfin, j'ai vu, bon, vous savez.
Mais tant mieux, on peut en profiter aussi.
Oui, peut-être que tu as raison. Oui.
Mais ça rejoint quand même un petit peu le support papier, ça, hein, cette fonctionnalité.
Cette notion, oui.
Cette notion, parce que le support papier, on achète le support, mais le contenu, si on veut l'utiliser. Il faut demander à l'auteur si oui. on peut l'utiliser. C'est le droit d'auteur. Quoi, voilà. Et donc, libre à l'auteur de dire, mais vous pouvez l'utiliser. Et c'est donc ça la différence des licences libres. Effectivement, le gars, il a dit, c'est pas une licence privée, c'est pas un droit d'auteur simple, c'est la libre utilisation de ce que j'ai écrit. Voilà. Vous pouvez le photocopier, vous pouvez en parler, vous pouvez le lire en public. Vous pouvez... Moi, je le mets à la disposition de tous.
C'est voilà. ça.
C'est donc la différence. Mais pour le papier, c'est ça.
C'est pareil, hein. C'est pareil.
Le droit de photocopie...
Non, ben, c'est interdit. Ouais.
C'est interdit. Ou alors, on demande à l'auteur si c'est, s'il nous autorise ponctuellement, généralement. Voilà.
C'est le même principe, effectivement.
Problème qu'on avait, nous, dans l'éducation nationale, effectivement, allègrement, on prend un petit exo d'ici, on prend un petit texte de là, et on le distribue aux élèves parce qu'on veut les faire travailler, c'est pas leur support qu'ils ont acheté, mais ça fait rien, on les fait travailler là-dessus, ben, on est dans l'illégalité complète.
Il faut savoir que Framasoft, dont on parlait tout à l'heure, donc c'est la communauté du livre, etc., a publié, alors je sais plus pour quelle classe, a commencé à publier des manuels scolaires sous licence libre.
Attier, je te dis pas. Bordas,
on attend sort de là.
Faut le savoir. Je ne sais plus quel est le niveau exact de classe. Je dirais des bêtises si je n'ai aventuré à essayer de le dire.
Mais voilà,
c'est sur Framasoft, on peut trouver ça assez facilement. Ça existe aussi. Donc cela, on a le droit de les copier, etc.
Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations, d'autres questions, d'autres angoisses ?
Les angoisses. Ah, c'est une jungle, l'Internet.
Oui ?
Oui. Est-ce qu'il existe des logiciels pour remplacer Dreamweaver sur... Parce que NVU, c'est pas terrible.
Pour créer des sites, je sais, il y en a. Pour ceux qui savent, qui en font, dans le toit là-bas. Pour remplacer Dreamweaver, tu connais quelque chose, toi ?
Oui, Notepad.
Ouais, Notepad, ouais. Ben ouais, c'est efficace, je sais, mais...
Non, je connais pas, mais...
Non, moi non plus.
Il y avait Bluefish, oui.
Ah, Bluefish, ouais, peut-être, ouais, effectivement. Ouais.
Et c'est des logiciels qui servent à quoi, ça ?
À créer des sites internet.
Ah oui.
Mais bon, c'est pas... Je pense qu'il vaut mieux partir maintenant sur les bases de CMS.
Oui.
Dreamweaver, c'était vraiment la vieille, enfin le début d'Internet des années 80.
La vieille école.
Mais c'est vrai que maintenant, avec des CMS comme WordPress, Joomla, on arrive à des solutions bien plus efficaces.
Oui, je suis d'accord.
Oui.
Je suis obligé d'entrer dans leur cadre.
Non, parce qu'il y a possibilité d'ajouter, il y a des créateurs par exemple, Tomcat. Donc on peut utiliser d'autres logiciels pour créer son propre squelette de site.
Oui, bien sûr.
Et après l'adapter dans le CMS, et donc on peut vraiment personnaliser des sites même en CMS.
Il y a des sites qui sont sous Joomla où très sincèrement on ne les reconnaît pas au premier abord. Quoi. C'est tellement personnalisé qu'il faut creuser pour savoir que c'est du Joomla derrière. Joomla c'est ce qu'on appelle un CMS, c'est un moteur de site, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que Joomla va s'occuper de l'apparence du site, et l'auteur du site, lui, il n'a plus qu'à s'occuper du contenu en lui-même. Et donc le logiciel va faire tout ce qui est mise en page. Tout ce qu'a à faire l'auteur du site, c'est taper le texte, finalement.
Et c'est un logiciel en ligne.
C'est un logiciel en ligne, effectivement.
Qui est directement sur Internet.
Et c'est un logiciel libre.
Est-ce qu'il ne vaut pas faire mieux Spip alors ?
Spip aussi, ouais, c'est le même principe effectivement. Et c'est aussi un logiciel libre. Et c'est sur le même principe, hein, oui, c'est ce qu'on appelle un CMS. Ouais.
C'est
SPIP. SPIP, ouais, mais c'est, il est très utilisé, ouais, SPIP.
Mais après,
à ce cas-là,
on utilise Jimdo, mais c'est le niveau vraiment plus basique,
on va dire. Ouais, je ne connais pas celui-là.
Je ne sais pas s'il est libre, hein. Je suis pas sûre qu'il soit libre.
C'est pour ça que je ne le connais pas.
C'est pour ça, ouais.
Mais c'est un système de CMS.
D'accord.
Sinon, maintenant, si LibreOffice ne peut pas aussi créer, servir un petit peu de Dreamweaver, de créer des pages HTML.
Il peut, oui, bien sûr.
On peut aussi les enregistrer. Aussi
il peut les enregistrer en HTML, effectivement. Ouais. LibreOffice, on peut choisir, au moment d'enregistrer, faire enregistrer sous et choisir le format HTML. C'est faisable. Si, si, ça marche, hein, sans problème. Après, je ne connais pas toutes les fonctionnalités de Dreamweaver, donc je dirais des bêtises, hein, mais les gens disent sûrement. Dreamweaver ?
Bah c'est statique.
Ah oui, d'accord. Ouais, donc ouais, non, il vaut mieux un CMS, ouais, NASCAR. Ouais. Là, c'est très dynamique et comme je disais, on se concentre vraiment sur le contenu. Ouais. Tout ce qui est mis en page, etc., c'est totalement dynamique et c'est le moteur du site qui s'en charge.
J'ai créé 4 sites en l'espace de quelques mois. Pour associations, pour ouais. Et ces sites, je ne sais absolument pas comment ils fonctionnent. J'ai pris un pack, ça s'est installé tout seul.
Ouais, c'est ça.
Moi, j'ai rempli.
C'est le principe du CMS, c'est-à-dire qu'on installe le truc, on balance et puis ouais. Terminé, quoi, et ça marche.
C'est le contenu qui est intéressant, c'est ça. Qui fait que c'est.
Et que ça vit.
Ouais.
Et que ça vit, parce que c'est le contenu qui est vivant, l'apparence
Après,
du site.
Ils ont tous la même couleur, les mêmes.
C'est tous les mêmes, ouais.
Ça, non, mais j'allais te dire, ils ont qu'à te mettre ça sur un fond de flamme bleu, blanc, rouge, ouais, par exemple,
après,
pourquoi pas.
J'ai un peu creusé, c'était pas très difficile de changer la couleur. Hein, mais je me suis même pas occupé de ça. Il y a possibilité donc, de créer des sites
très facilement.
Sont clairs, hein, c'est les coquilles vides, on n'a plus qu'à remplir.
C'est ça.
Il y a tous les outils pour mettre à jour et pour donc Yolande est là.
Oui.
Donc c'est en plus il y a la possibilité d'y aller à plusieurs.
Ah oui, tu édites de ton côté lui aussi.
Mais oui, de projeter quelques articles.
Oui, non, mais voilà,
collaboratif,
c'est
tout est prévu pour faciliter l'entretien.
C'est ça.
Alors que avec Dreamweaver, c'est,
C'est très statique.
On sculpte dans le marbre site, ouais, et puis chaque fois qu'on veut changer un truc, il faut tout casser, tout refaire. Alors c'est monstrueux. Ça. Donc maintenant, il y a faire un site, c'est à la portée de tout le monde.
Ouais.
Mais on ne s'occupe plus de faire le...
Tout ce qui est graphisme.
L'infrastructure est déjà toute faite.
Ouais.
Mais plus on avance, et plus l'informatique est faite pour les idiots. c'est ce qui a fait la fortune de...
On va pouvoir s'approcher.
Parle pour toi.
Mais ça nous rend idiots.
Quelque part, mais pas du côté du livre, parce qu'il faut quand même se réapproprier un peu tout ça. Et puis ça donne envie de creuser de toute façon. À partir du moment où c'est disponible, où le code est disponible, etc., on a. Quelque part, on a envie de creuser un peu quand même.
C'est très marginal. La plupart des gens veulent quelque chose.
Juste utiliser, je sais, ouais. Bien sûr.
On veut rappeler des carottes, mais on ne veut pas savoir quel est le moteur qui est dans le robot, quoi.
Je sais bien.
Le chapeau, il est où ?
Chapeau, il est là-bas.
Chapeau est sur le coin, porte de sortie. Oui, oui. Donc, si vous n'avez plus de questions, je vous rappelle que vous avez la possibilité de mettre votre adresse mail sur la liste de diffusion qui est toujours envoyée en cours.